Bonjour, ce mois-ci c'est notre troisième émission de Lire et écrire sur Studio Zef. Cette émission fonctionne comme un atelier d'écriture, ce sera la première partie. En seconde partie, je vous parlerai de la saga de Tancrède le Normand de Viviane Moore. Puis, ce sera une petite consigne d'écriture pour ceux qui veulent s'amuser. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos textes sur l'adresse suivante, lire-et-écrire@studiozef.fr. Lire et écrire en attaché, sans accent. À qui s'adressent les ateliers d'écriture? À tous, de 12 à 112 ans. Ils sont utilisés dans les cours de langue française pour les étudiants étrangers, dans les formations d'ingénieurs, dans des activités ludiques au sein d'associations. Le fait d'être avant tout une activité de plaisir leur donne une grande capacité pédagogique. Quand on force des gens à devoir écrire alors qu'ils ont plutôt une formation scientifique, qu'ils ont eu des vécus difficiles avec l'approche de la littérature au sein de l'école, qu'ils n'ont pas le temps, pas l'envie, on n'obtient que du dégoût. Ici, on commence par relier le sujet aux arts, aux livres, aux auteurs, on joue avec les mots, leur sens, leur composition, leur consonance. La transmission du savoir se fait par la diction du texte apparu sur la feuille, et chacun écoute, et notre voix parfois nous fait découvrir ce que notre inconscient a exprimé. Personne ne peut échapper à l'obligation d'écrire dans un monde de communication et de télécommunication. Dans la vie professionnelle ou associative ou politique, sur des projets ou des rapports, dans l'intimité sur des SMS, des réseaux sociaux, dans une lettre, dans des démarches administratives. L'atelier n'est pas un cours, il ne doit pas y avoir de jugement, juste des conseils ou du ressenti à l'écoute. De même, il n'y a rien à attendre d'une quelconque muse mythique qui donnerait l'inspiration chère au poète. Il faut simplement laisser vagabonder son imagination en relation avec le sujet et la consigne, sans tabou, sans contrainte. L'imagination au pouvoir, disait-on il y a 50 ans. Avant de parler du sujet principal, une pause musicale dédiée à mes amis de Roxette qu'on écoute tous les jeudis sur 91.1 Studio Zef, un morceau de Kevin Ayers, May High, ancien bassiste de Soft Machine, dont David Allen faisait partie et qui fondera ensuite la communauté Gong, où la créativité musicale ressemblait fort à un atelier d'écriture.
Smile a while. I just came in off the street, looking for somewhere to eat. I find this small cafe. I see a girl and I say, may I sit and stare at you for a while? I'd like your smile. May I sit and stare at you just a little while? Yes, I'd like company, your smile. It's all I want.
Passons au sujet du jour. Une série que j'ai particulièrement appréciée, écrite par Vivianne Moore. Vivianne Moore est une romancière française née à Hong Kong en 1960. Elle a écrit plusieurs séries policières historiques. La première, la série du Chevalier Galeran de Les Neven au XIIe siècle avec 9 livres. La seconde avec la saga de Tancred le Normand, toujours au XIIe, de 2006 à 2008. Tancred partira de Pirou, en Normandie, vers le Moyen-Orient. 7 livres en 10-18, dont le premier est Le Peuple du Vent, numéro 3890. On y apprendra comment naviguer sur un navire ressemblant à un drakkar, le Knorr, dont le pont est à peine au-dessus de l'eau, mais qui, construit en bois, est extrêmement sûr. Le Knorr est fait pour le transport de marchandises. On verra comment le roi normand et chrétien de Sicile appréciait les vertus de la polygamie avec son harem. Comme dans l'émission précédente, je vous conseille de lire les livres dans l'ordre chronologique de parution pour suivre l'évolution des personnages récurrents. Vivianne Moore a écrit également une trilogie celte aux éditions Le Masque, se déroulant au 5e siècle, avant l'arrivée de Saint-Patrick qui convertit l'Irlande au christianisme. Un petit morceau de musique en lien avec l'Irlande en hommage à la chanteuse de Cranberries, Dolores O'Riordan, avant de lire un passage du premier livre, Le Peuple du Vent. Hugues et Tancrède avaient regagné leur chambre. L'oriental, songeur, allait et venait dans la pièce. Il ne semblait plus avoir conscience de la présence de son disciple et marmonnait, mélangeant syrien et grec, signe que quelque chose qu'il n'arrivait à résoudre le troublait. Enfin, il s'assit sur le rebord de sa couche et sortit la tablette de cire et le style d'ivoire qui ne le quittait jamais. « Qu'avez-vous vu ? » demanda-t-il soudain. C'était un jeu que tous deux pratiquaient depuis des années. Hugues, au moment et dans les lieux les plus insolites, églises, routes, auberges, faisait appel à la mémoire de son protégé, le questionnant sur des sujets aussi divers que la couleur d'une mosaïque, les boutons d'un vêtement, le nombre de soldats d'une patrouille, les canards posés au milieu d'un étang. Tancrède hésita. Tout cela avait été si vite. Il lui semblait à peine avoir regardé le cadavre. Il se lança pourtant. La bouche tordue de la morte, ses narines pincées, ses mains comme des griffes sur les draps, le corps arqué. La mort a dû être longue et douloureuse, mais je pense... Pas de conclusion trop rapide, le coupa Hugues. Rien que des observations. Bien. L'ancienne nourrice, les yeux rougis, le seigneur de l'épine immobile et tendu, mais je n'ai pas vu Maugé. Il n'est pas venu au chevet de sa mère. Continuez. La différence d'attitude des deux filles du seigneur de Pirou, l'une embrassant sa tante, l'autre prenant la fuite. C'est à peu près tout. Non. Le volet de la fenêtre, ouvert ou fermé ?
Ouvert.
La bassine, pleine de linge souillé. Une odeur acide, qui se rajoute à celle plus fade du sang. La couleur de la vomissure. Vert jaune. Des objets dans la pièce ?
Tancrède essaya, ainsi que son maître le lui avait appris, de visualiser l'image de la chambre. Un coffre ouvert. Des robes et une chemise jetées sur les bords. Un brasero éteint, du feuillage desséché, une bassine pour la toilette dressée dans un angle, un panier avec du linge et du savon. C'est tout ?
Le jeune homme se concentra, faisait à nouveau, en pensée, le tour de la pièce.
Non, un mantel de fourrure, le même qu'elle portait à la chapelle en tas sur le sol. Cette fois, je crois que c'est tout.
Vous avez vu beaucoup plus que vous ne croyez, comme à chaque fois.
Comme son maître n'ajoutait rien, le jeune homme reprit. Quelle était la maladie de cette femme ?
Elle paraît avoir souffert 1000 morts avant de renoncer à se battre.
Mais l'oriental dessinait dans la cire de sa tablette, et il se tut.
Quelques instants plus tard, Hugues releva la tête. « Avez-vous repris votre lecture du De Rerum Naturalis de Rabban Mor ?»«
Non, avoua le jeune homme. Qu'avez-vous fait alors pendant toute cette matinée ?»
Tancrède savait que depuis leur arrivée à Pirou, il n'était plus aussi assidu à ses études. Mais était-ce le fait qu'il sentait en lui tant de force et de désirs contraires ? L'attente et la solitude lui étaient de plus en plus insupportables. Il rêvait de batailles qui le révéleraient à lui-même, d'exploits, de conquêtes. L'étude et l'observation ne lui suffisaient plus.
« J'ai chevauché avec la demoiselle Sigrid, déclara-t-il, et sa sœur. Je suis allé à la chapelle au péril des flots, adossée au rocher de Pirou. »
L'oriental ne fit aucun commentaire, mais se leva et déclara.
« Allons, allons, je sens bien que je néglige votre entraînement » et que votre discipline s'en ressent. Venez, allons tirer le fer avec Maître Géant. L'exercice nous fera du bien à tous les deux, et il nous fera oublier le son lugubre du glas.
Le jeune homme prit soudain conscience que la cloche continuait de sonner, éveillant de sinistres échos dans les couloirs et les escaliers. Il décrocha les sabres suspendus au mur et tendit l'une des lames courbes à son maître.
« Vous ne m'avez pas répondu pour le mal qui a tué la dame de l'épine. »
« Sans doute que je n'avais pas la réponse, mais je la trouverai. » Et le jeune homme sentit chez l'oriental
cette excitation si particulière qui le prenait quand la nature ou l'humain résistait à son étude. Bien entendu, ils résoudront cette énigme. Puis ce sera le départ sur la mer. On va s'écouter un morceau de Malicorne le long de la mer Jolie.
Belle embarquée, belle embarquée, dans mon gentil navire, du long de la mer, du long de la mer, de la jolie mer, jolie. Mais quand la belle fut embarquée, elle rougit, elle soupire. Qu'avez-vous donc, qu'à vous à soupirer? De la jolie mer, jolie. Mon beau galant, si tu savais de qui je suis la fille. Je suis la fille du bourreau, le plus gros de la ville. Du long de la mer, du long de la mer, de la jolie mer, jolie. Belle débarquée de mon gentil navire. Mais quand la belle fut débarquée, elle ne faisait que rire. Du long de la mer, du long de la mer, de la jolie mer, jolie. Qu'avez-vous donc, qu'avez-vous belle à ton rire? Mon beau galant, de qui je suis la fille, du long de la mer, du long de la mer, de la jolie mer, jolie. Je suis la fille du bourgeois, le plus riche de la ville. Belle revenez, je vous donnerai son livre, du long de la mer.
Éléonore comprit très vite que le Knorr n'était pas fait pour accueillir des passagers. Bien qu'il fût plus grand et plus haut que l'Esneck, il était conçu avant tout pour le transport des marchandises. Des ballots de fourrure encombraient les cales. Le pont était l'espace réservé des rameurs, et seul un abri à l'arrière était prévu pour les voyageurs, celui de l'avant étant le domaine du cuisinier. La jeune femme, à qui son père avait parlé des galets, des marchands pisans et génois, ces lourds bateaux méditerranéens sur lesquels s'étageaient de vastes châteaux arrière, des entrepôts et des écuries, se retrouva à la poupe du Knorr dans une cabane sombre et basse de plafond, où pendaient des branles de toile et où s'alignaient des cadres de bois servant de lit. Une odeur de sueur et d'urine prenait à la gorge, et seule la porte et une minuscule lucarne laissaient filtrer un peu d'air et de lumière. Elle suivit Giovanni au milieu des passagers et des matelots, puis s'enfonça dans un étroit couloir. Le Lombard ouvrit une porte et s'écarta. « Allez-y !» Le ventail était si bas que la jeune femme dut se baisser pour entrer. Elle se retrouva dans un réduit à peine plus grand qu'un placard, par une aération à claire-voie, entrait un rayon de soleil qui tombait sur le plancher. « C'est votre cabine !» annonça fièrement Giovanni. « Un branle, vous verrez. Ces sacs de toile font de bons lits. Des clous pour suspendre vos vêtements, il y a tout ce qu'il faut. Il hésita et désigna un pot de terre maintenu contre la paroi par deux planchettes. « Ceci sert d'urinal aux hommes. On le vide à la mer au matin. Mais il arrive qu'il se renverse avant, d'où les odeurs que vous avez senties dans le dortoir. Vous pouvez l'utiliser par gros temps si vous êtes malade. »«
Ah ?»«
Oui, la mer n'est pas toujours belle, comme en ce moment. Elle est plus souvent déchaînée et dangereuse. » C'est la première fois que vous naviguez, n'est-ce pas ?
Oui,
c'est bien ce que je pensais. Au fait, vous n'oserez pas me le demander, mais il n'y a pas de lieu d'aisance à bord. Pas au sens où vous l'entendez. Il faut aller à l'avant ou à l'arrière du navire et se jucher sur une planche percée que l'on cale par-dessus bord. Il faudra que j'arrange cela avec votre serviteur. Quand la mer est grosse, ce n'est guère facile, déjà pour les gars, alors pour une femme. » Elle regardait sa robe et ses fins souliers ornés de boucles d'argent. « Excusez-moi, mademoiselle, tout cela est bien joli à terre, mais sur un bateau, avez-vous des brais et d'autres chaussures ?»«
Oui, il m'arrivait de chevaucher habillé en homme, et j'ai pris ma tenue de cavalier. Le mieux, ce serait que vous soyez habillé comme cela à bord. » Vous vous sentirez plus à l'aise et l'équipage fera moins attention à vous.
Je me changerai. » Le Lombard désigna le branle. Pèlerins et voyageurs prennent toujours leur literie avec eux, mais j'ai pensé que vous n'auriez pas ce qu'il fallait, et je vous ai laissé ma couverture et mon coussin. J'en ai d'autres en réserve, mais c'était ma chambre. Vous pouvez mettre votre coffre là, au-dessous. C'est pour ça que j'ai choisi un branle. Placé en long et bien tendu, on n'y sent pas le roulis. Vous vous y ferez, vous verrez. On y dort bien.
Votre cabine? Mais je ne voulais pas vous déloger. Pourquoi?
Giovanni eut un haussement d'épaule.
Quel moyen de faire autrement? Il était impossible,
vous l'imaginez bien, de vous mettre dans le dortoir des hommes et sous la tente extérieure avec l'équipage. Il y a rarement des femmes sur les bateaux de commerce par ici.
Je comprends.
Les traits du Lombard s'étaient durcis. Il faudra plus que ça, mademoiselle. Je ne veux pas de mutinerie à bord ni de bagarre. Il y va de votre honneur, mais aussi de votre vie. N'oubliez jamais que pour les marins, toute occasion est bonne à prendre. Ne vous trouvez pas isolé, gardez votre capuche, ne jouez pas avec votre chevelure et évitez de les regarder en face. Il prendrait cela pour de la provocation. Et au bout de quelques jours de mer, croyez-moi, le besoin des femmes se fait sentir, d'autant que d'après ce que je sais, nous ferons le moins d'escales possible, en tout cas, pas dans des ports. Éléonore rougit et se baissa la tête. Le Lombard lui tendit une petite clé de fer. Ceci pour la cabine, et n'oubliez jamais de fermer votre coffre.
Bien.
Gardez-la toujours dans votre aumônière. Quant à votre chien, qu'il reste avec vous. Je ne veux pas qu'il effraie mes hommes. Qu'il dorme ici, cela vous rassurera et vous évitera peut-être quelques visites nocturnes. Et la nuit, n'oubliez pas de mettre ça en travers du ventail. Giovanni lui désigna une grossière barre de bois qui permettait de fermer la porte de l'intérieur.
Je vous remercie.
Le Lombard s'inclina et fit demi-tour. La jeune femme ressortit, s'écartant pour laisser passer Gauthier, qui poussa ses bagages sous le branle.
« C'est pas bien grand, remarqua-t-il. Si vous n'avez pas plus besoin de moi, je vous laisse, maîtresse. Je vais voir où dormir et ranger mes affaires. »
Éléonore regagna son réduit, l'inspectant avec soin avant de s'asseoir sur son coffre. Une angoisse diffuse lui serrait la gorge. L'excitation de la veille s'était envolée. Était-ce le fait de se retrouver seule, femme à bord, ou bien l'imminence du départ et l'éloignement des siens? Tout lui semblait étrange et elle se sentait si gauche. Elle songea à son père, là-bas, à Fierville. Ne sachant que faire d'une fille aînée, alors que l'occasion d'un remariage prestigieux s'annonçait, il s'était débarrassé d'elle. Elle se moqua d'elle-même, son père l'avait aimée, et maintenant que sa mère était morte, il regardait vers un avenir où elle n'avait plus sa place. Mais ne fallait-il pas un jour quitter l'enfance, tourner le dos au sien sans regarder derrière soi. Toutes ces aventures, durant un voyage mouvementé, à la merci des pirates, des tempêtes, des pilleurs d'épaves en Méditerranée, me font penser au groupe suédois, composé de 4 femmes, 4 Zen Jammer, qui sont directement des descendants des Vikings.
The girls and you, my nearly broken hearted salute to father dear. Kissed me darling mother, drank a pint of beer. My grief and tears to smothered enough to reap the corn. Be where I was born, cut the stone before to banish ghosts. The couple is lost, a pair of clothes to wrap the love of the most. Frightened all the dogs on the rocky road. To double in 1, 2, 3, 4, 5. Hunt a hare and tundra down the rocky road. And all the ways to double in breath for the Leroy. By daylight, next morning bright and early, took a drop of the pure to keep me heart from sinking. That's the putty's cure. Whenever he's drinking and hear the lassie smile, laughing for a while, at me curious smile would set your heart a bubbling. As me was I hired and paid your siren cry till I was almost tired of the rocky road to double in 1, 2, 3, 4, 5. Up to here and tutting her down the rocky road, and all the ways to double in back for Lollybum. In double in next to ride, I thought it's such a pity to be so soon deprived of you. Oh, that fine city, then I took a stroll. All among the quality bundle, it was stolen in the neat locality. Something crossed me mind when I looked behind. No bundle could I find upon me. Stick a wobble and crying after the road. Said me, come the pro, it wasn't much of vogue. On the rocky road to double in 1, 2, 3, 4, 5. Hunt a hare and trotting her down the rocky road. And all the ways to double in back for the bar. From there I got away, Miss Porter's never failing, and it undergrages as the ships were sailing. The captain at me roared, said that no room had he. Then I jumped on board a cabin crown for Paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, played some hearty jigs. The water round me bubbling ran a holy head. Wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road, we're doubling 1, 2, 3, 4, 5. Up to here and tutting her down the rocky road, and all the ways to doubling back for Lollybum. The boys of Liverpool, we safely landed, called myself a fool. I could no longer stand it, blood began to boil. Temper I was losing for all their insult. They began abusing her army, so it says I'm shillelagh, island pie. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the loud array. They joined me in the affray, quickly clear the way. Oh, the rocky road, we're doubling 1, 2, 3, 4, 5. Hunt to here and turn her down the rocky road, and all the ways to doubling back for Lollybum.
Puis on arrive enfin en Sicile, où nos héros vont être proches de la cour du roi et enquêter sur des meurtres. Les 3 cultures, chrétienne, musulmane, juive, sont présentes sur l'île, mais déjà on sent que tout peut s'embraser rapidement. Le roi, ayant la capacité d'adaptation de ses ancêtres, était très ouvert sur les mœurs de ses compatriotes, mais c'était sans compter sur ceux qui peuvent, pour le renverser, mettre le feu aux poudres entre les diverses communautés. Un extrait donc du tome 4 de la saga à la cour du roi de Sicile. Il en était du harem comme du reste du royaume. Certains étaient des maîtres, d'autres des serviteurs. Théodora appartenait à la première catégorie. Byzantine, de haute naissance, les aléas d'une traversée en Méditerranée l'avaient jetée enfant dans la prison dorée du harem. Sa famille la croyait morte et les Normands n'avaient jamais demandé de rançon. La petite fille était devenue une femme. Sa beauté et son esprit en avaient fait une favorite. Trouvant un charme certain à ce côtoiement charnel avec le pouvoir, la jeune Théodora devint à 14 ans la membre de Roger II, puis, quelques années plus tard, la favorite de son fils Guillaume Ier. Elle était l'une de celles avec qui il fallait compter dans cet univers complexe où se tissaient des alliances inattendues et de redoutables vengeances. Bonne joueuse d'échecs, elle avait même eu l'honneur d'affronter l'émir des émirs conquis par la femme, capable de tenir jusqu'à la phase de stratégie. Pour plaire au roi, il fallait plaire à Théodora, et la belle Byzantine savait se lier avec les Fatianes comme avec les barons, s'attirant des visiteurs qui venaient autant pour la beauté de son corps que pour jouir de l'influence qu'elle avait sur le roi normand. Cette nuit-là, il faisait si chaud que la jeune femme avait repoussé des draps de soie dans lesquels elle aimait s'envelopper. Ses longues jambes brunes reposaient sur le tissu, seule une ceinture de soie et de perles l'apparaît, nouée autour de sa taille fine. C'est dans un demi-sommeil qu'elle sentit une main se poser sur ses lèvres, étouffant son hurlement de terreur. « C'est moi !» fit une voix à son oreille. Au son de cette voix, Théodora renonça à se battre. Serait-il possible qu'il soit revenu ? Retenant son souffle, elle ouvrit les yeux, essayant de discerner le visage de son agresseur. Comprenant qu'elle ne crierait pas, celui-ci avait relâché son étreinte. Théodora s'enveloppa de son drap et ranima la petite flamme de sa lampe à huile. Le spectre prit forme. Il était effrayant. « Mes craintes, c'est moi » fit-il en s'agenouillant. « Gamaliel ?» Elle avait murmuré son nom, mais comment reconnaître dans cet être décharné, couvert de vermine et barbu, l'amant magnifique et sensuel qui lui avait fait aimer l'amour. Théodora s'approcha de lui, cherchant de ses doigts le contour du visage aimé. Il y avait des mois, des siècles. « Ils m'ont jeté en prison pour trahison, souffla Gamaliel. Je n'ai pu te prévenir. »« Jeté en prison ?» Pour la centième fois depuis leur séparation forcée, Théodora revécut l'annonce, par l'un des eunuques, de la disparition de son amant. Grâce à ses relations, elle avait su qu'on avait fait prisonnier sa femme et son fils, puis qu'on les avait vendus sur le marché aux esclaves. Mais de lui, pas de nouvelles, et elle avait pensé qu'il s'était enfui en l'abandonnant. Trahison était le seul mot qui lui était venu. Elle l'avait maudit, et pas une seule fois. Il était si fort, si invincible, elle n'avait songé qu'il aurait pu lui arriver malheur. On entendait des voix au loin. Gamaliel s'était redressé et regardé autour de lui avec angoisse. Les pensées de Théodora s'ordonnèrent à nouveau. « Comment es-tu parvenu jusqu'ici ?»« Je me suis évadé en passant par les canapés. J'ai croisé une femme dans les couloirs. »« Comment était-elle ? Je ne sais. Brune. Je n'ai pas eu le temps. Je ne pensais qu'à te rejoindre. On doit avoir découvert ma fuite. Il fallait le cacher. Et vite, avant que la garde ne fasse irruption. Viens, suis-moi. » Théodora attrapa la gandoura qui gisait en tas près de sa couche et une bourse qu'elle glissa à sa ceinture. Puis, lui tendant la main, elle l'entraîna par un étroit corridor jusqu'à une réserve où s'empilaient des provisions. « Que fais-tu ? Silence !» Après avoir refermé la porte à clé, elle repoussa les cylindres de canne tressés où d'ordinaire on entreposait le grain et la farine. Fit pivoter une étagère chargée de paniers, écarta une tenture, imitant à s'y méprendre l'aspect misérable du mur, découvrant un boyau au bout duquel elle ouvrit une porte basse. Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent dans une pièce munie d'un soupirail. L'endroit ressemblait au nid d'un oiseau exotique. Les murs et les sols étaient recouverts de tentures et de tapis aux couleurs chatoyantes. Un grand lit avec des coussins, une bassine de cuivre pour les ablutions, des poufs, un plateau d'argent posé sur un coffre, un miroir d'étain, des bijoux dans une coupe, et une odeur de fleurs d'oranger et de roses. « Où sommes-nous ? » Épuisé, il vacillait sur ses jambes et la tête lui tournait. Dans la chambre des amours interdites. Peu de gens en connaissent l'existence et je suis la seule à en posséder les clés. Dans quelques-unes de mes sœurs veulent recevoir ici leurs amants de cœur, je leur ouvre le paradis. L'évadé n'en pouvait plus de fatigue. Il poussa un sourd gémissement et glissa à terre, évanoui. Gamaliel, la voix inquiète de sa maîtresse le ramena à lui. Il était sur le lit et le visage de son aimé planait au-dessus de lui. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, mais il ne pouvait même pas lever la main, tant il se sentait faible. Reste tranquille, je vais revenir. Je t'apporterai à manger. En attendant, dors. « Je voudrais me laver et me raser. Je m'occupe de tout. Repose-toi. » Elle allait partir. « Laisse-moi les clés, Théodora. » Ses yeux se fermaient. Elle hésita. Je ne veux plus jamais être emprisonné, même par toi. Je frapperai 3 coups quand je viendrai te voir, fit-elle en déposant le trousseau au creux de sa paume. Une pause musicale avec un musicien américain génial, issu d'une famille d'origine sicilienne libanaise, Frank Zappa.
Thank you.
Bien, bon, maintenant on va passer à la consigne du jour, ou plutôt du mois. Racontez un voyage sur un bateau que vous avez fait ou que vous rêvez de faire, ou mettre de l'autofiction pour donner un sens à l'histoire. L'émission est diffusée le deuxième et quatrième lundi de chaque mois à 14h sur Studio Zef 91.1 ou sur le podcast de l'émission sur studiozef.fr. Pour clore l'émission, la suite de The Petit Oiseau Orchestra de Zappa.